Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 157e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 25 mars. Nous enregistrons avec un peu d'avance cette semaine car la journée de mardi est consacrée à la 8e édition de Tip & Shaft Connect à Nantes. Pour ce 157e épisode, nous recevons Bruno Dubois pour parler à la fois de CLJP puisqu'il est manager de l'équipe française qui vient de signer une excellente deuxième place au Grand Prix de Nouvelle-Zélande, mais également de Coupe de l'América puisque Bruno est également le cofondateur et co-directeur avec Stéphane Candler d'Orient Express Racing Team, le défi français pour la 37e Coupe de l'América qui aura lieu à partir de la fin d'été prochain à Barcelone. Bruno, bonjour, merci de t'être arrêté entre deux rendez-vous à mon domicile de Levallois pour cet enregistrement. Écoute Bruno, avant de parler de cette double actualité CLJP et bien évidemment la Coupe de l'América, je vais faire un retour rapide sur ce Grand Prix de Nouvelle-Zélande qui s'est joué sur une seule journée dimanche. Les régates de samedi ont été annulées pour cause de présence de cétacés sur la zone de compétition. Trois courses en flotte ont été courues. La France de Quentin Delapierre a remporté la troisième après avoir fait 2 et 5 sur les deux premières, ce qui lui a permis de se qualifier pour la finale à 3 en compagnie de la Nouvelle-Zélande et du Canada, une finale dont elle a pris la deuxième place, la victoire revenant à domicile au Kiwi de Peter Burling. À l'issue de ce 9e Grand Prix de la saison, la Nouvelle-Zélande prend le large au classement général devant l'Australie et l'Espagne, cette dernière ne comptant qu'un point d'avance sur la France qui se replace dans la course pour la super finale de San Francisco mi-juillet. Rappelons que les trois premières équipes au classement général disputeront cette super finale. D'ici là, il reste trois grands prix à disputer, aux Bermudes début mai, à Halifax au Canada début juin, puis à New York les 22 et 23 juin. Bruno, tu n'étais pas à Christchurch ce week-end pour le Grand Prix de Nouvelle-Zélande, mais on imagine que tu étais en contact permanent avec l'équipe et devant ton écran sur Canal+. Un mot sur l'ambiance qui avait l'air assez fabuleuse là-bas, avec plus de 20 000 spectateurs sur place, une tribune au ras de la ligne d'arrivée, ce qui prouve bien que la Nouvelle-Zélande est vraiment un pays de voile.
Oui, c'est bon, évidemment que comparé à des départs de Route du Rhum ou autres Vendée Globe, c'est sûr que 20, 22 000 spectateurs sur un week-end, sur deux jours, c'est peut-être pas beaucoup, mais quand même pour la voile spectacle au bord de l'eau, c'est quand même assez exceptionnel. Je pense que les Extreme Sailing Series ont dû avoir ce genre de chiffres à certains moments, dans certains endroits. Donc c'est fabuleux. Puis avec les bateaux qu'on a, on était vraiment à toucher, quoi. On était vraiment très très proche, c'était très bien.
Première journée qui a été annulée à cause, comme je le disais, de présence de cétacés, c'est une grande première sur le circuit CLJP.
Non, l'année passée, il y avait déjà eu certains problèmes. Là, en fait, l'endroit à Christchurch, c'est extraordinaire pour naviguer, il y a du vent, mer plate, une superbe baie, mais on sait que plus on descend dans le sud de la Nouvelle-Zélande, plus il y a des dauphins et des baleines, j'imagine, donc... On a un protocole au sein de CLJP et donc on arrête absolument de naviguer dès qu'il y a des cétacés dans le coin. Donc on est en accord avec les organisations locales. Donc il n'y a pas de surprise de notre côté. Par contre, si on veut offrir un spectacle avec 22 000 personnes, c'est un peu compliqué. Donc pour nous, ça n'a pas été un problème parce qu'on a tout arrêté. Mais ça peut être un problème pour les spectateurs. Donc je pense que voilà, l'objectif de Russell Coutts, c'était d'aller à Auckland. Mais après Auckland, c'est de trouver assez d'espace pour pouvoir recevoir 22 000 personnes aussi. C'est pas simple. Donc voilà, en effet, la Nouvelle-Zélande est un endroit où ils aiment bien ce genre de course, ils aiment bien la voile. Et ils font des déplacements à travers tout le pays. Les gens du Nord ont pris l'avion pour venir sur l'île du Sud pour voir ce Grand Prix, quoi.
Raconte-nous un peu cette deuxième journée, sur cette deuxième journée, donc seule journée de régate, avec forcément moins de régates à disputer. Il ne faut vraiment pas se louper. Comment ça s'est passé sur les régates en flotte de l'équipe de France qui fait, comme je disais, 2-5 et une victoire sur la troisième manche?
En fait, il faut revenir à la journée d'entraînement, qui est le vendredi, où on a navigué dans les mêmes conditions et on a fait deux premières places, en fait. On a fait 1-4-1. Donc là, ça mettait déjà le couvert par rapport à nos petits camarades. Ils ont vu que, enfin, ils savent tout, on sait très bien que dans la brise, notre bateau va très bien et l'équipe manie très très bien le bateau. Et où on avait plus de travail, en plus, c'est pendant la saison, c'est en début de saison, c'est vraiment dans la pétole, quoi. C'est un peu plus compliqué pour nous. Mais on a travaillé, donc voilà, je pense que Quentin, il a vraiment remis les choses claires avec l'équipe par rapport à ce qu'ils voulaient faire, mais on sent qu'on monte en puissance déjà depuis un petit bout de temps. Ça fait quand même 4 fois qu'on fait 4e.
Ouais.
Donc voilà, dans la brise, tout le monde avait le sourire chez nous. On a des grinders qui sont super puissants. Le mixte Quentin-Kevin, Quentin-Manon au dîner fonctionne très très bien. Donc voilà, on a fait un super départ sur la première manche. C'était, pour ceux qui ont pu le voir, c'était départ à la pine lancée, c'était vraiment super. Malheureusement, voilà, on perd sur un choix de bord à la fin, on termine deuxième, mais voilà, la première manche était extraordinaire, en fait.
Et les deux autres?
Ouais, en fait, la deuxième, je pense qu'on aurait pu terminer troisième facilement, mais à un certain moment, quand on revoit les images du drone ou de l'hélicoptère, c'est sûr que la deuxième descente et la décision d'empanner et puis de partir sur la bouée de gauche en descendant, c'était bizarre parce que, en fait, je pense que leur idée, c'était de ne pas rester derrière les deux autres et pas rester en troisième position, faire la queue-leu-leu, et de jouer en partant à gauche. Mais en partant à gauche, il y a les Espagnols qui sont venus s'insérer devant, et puis c'était pas top. C'est peut-être une des seules décisions négatives qu'il y a eu sur le week-end, parce qu'il faut savoir que sur les 4 manches, il y a 2 bateaux qui ont volé 100% du temps.
Ouais.
C'est les Néo-Zélandais et les Français. Donc ça, c'est une superbe nouvelle pour l'équipe.
D'accord. Ça s'est terminé par une victoire de manche sur la troisième, donc qualification pour la finale à 3 avec la Nouvelle-Zélande et le Canada. Ça s'est joué où et comment cette finale à 3 avec les Néo-Z qui s'imposent devant leur public?
Oui, le départ, hein, on part tous les trois très très bien.
Ouais.
Les Néo-Zélandais, en partant à la pine, c'est-à-dire sous le vent, il y avait un peu moins de distance à couvrir, c'était un petit peu plus au reaching, donc les bateaux allaient un peu plus vite. Et Quentin s'est mis au vent, donc ce qui était très très bien. Et le Canadien a été pris en sandwich entre les deux, donc il a un petit peu ralenti. Et puis voilà, en étant un petit peu plus au vent, il était un peu plus loin après avoir abattu à la première bouée de reaching, il était un peu plus loin. Donc il est resté bien dans le sillage derrière. Et puis de nouveau à la deuxième bouée de descente, il a décidé de splitter pour voir. Et ça aurait pu marcher parce qu'il y avait moins de vent à terre. Mais il y avait, comme on dit, de la gauche et de la donnante à terre. Donc, les Kiwis ont réussi à garder leur avance, même si notre vitesse était plus élevée. Mais pour nous, voilà, notre objectif, c'est pas de finir premier, puis dernier, premier. Certaines équipes font un peu ce genre de yo-yo. Et la stabilité et la consistance dans ces GP, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, c'est vrai que quand les gens nous faisaient des remarques, c'est vraiment décevant, vous êtes quatrième. Nous, on voyait les choses d'une manière un peu différente parce que, quand on fait quatrième, il y en a d'autres qui descendent et qui font des 6, 7, 8e, et ça pénalise énormément.
C'est finalement votre meilleur résultat de la saison, deuxième. Vous êtes quatrième au général à 1 point de la troisième place, comme je disais, occupée par l'Espagne. C'était une saison qui avait démarré un peu difficilement, avec des résultats un petit peu en dedans par rapport à vos attentes, j'imagine. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, les résultats se sont remis dans le bon sens? Il y a eu quel ressort vous avez trouvé avec Quentin Delapierre, Kevin Péponnet et toute l'équipe pour que ça reparte dans le bon sens?
On avait décidé en début de saison de changer, de prendre Jason Saunders, comme il fait partie aussi de l'équipe de l'America's Cup, de le titulariser en CLGP. Donc Jason venait de l'équipe suisse, fallait qu'il s'habitue, il est rentré à Saint-Tropez avec nous. Donc c'était un petit peu un chamboulement d'équipe parce que le flight controller, celui qui s'occupe du vol, c'est quand même un poste très important. François Morvan faisait un super boulot, mais je pense que Quentin voulait plus. Et puis voilà. Et sa femme, Manon Dinet, était enceinte aussi en début de saison. Donc, elle a été remplacée par Amélie Rioux qui a fait un super boulot. Mais Manon est revenue à Dubaï, le temps de se remettre en route un petit peu. Voilà, on a eu un peu de changement d'équipage en début de saison et on le savait très bien que ça allait être compliqué. Il fallait s'adapter, essayer de perdre le moins possible. Enfin, on était quand même, en début de saison, on était 8e sur 10, donc ce n'est pas quand même un résultat extraordinaire. Mais bon, voilà, on est monté à 7e place, après on est monté à la 5e, maintenant à la 4e. On va dans des endroits où il y a du vent. On parlait de 3 événements, mais il y en a 4 en fait, parce qu'il y a encore il y a les Bermudes, New York, bon, ça sera peut-être un peu moins, enfin, ça sera un peu plus compliqué. Halifax, normalement, on devrait avoir du vent. Et après, il y a San Francisco, et on fait tout l'événement de San Francisco avant d'aller à la grande finale. Donc, il y a vraiment 4 événements, dont normalement 3 avec du vent. New York, on verra bien, mais ça, c'est un petit peu différent de New York.
Tu nous expliquais aussi, on avait fait une interview sur Tip & Chuck en septembre, que tu as aussi un moment poussé Quentin à aller prendre des vacances. Il y avait peut-être chez lui peut-être usure mentale de répéter les saisons. Peut-être il avait besoin de couper un moment dans cette saison.
Oui, oui, à ce moment-là, Quentin n'était pas, voilà, familialement parlant ou dans sa vie privée, il se posait plein de questions. Donc voilà, c'est mon rôle aussi de pouvoir lui dire, regarde, tu prends un break, tu dégages, c'est l'été. Vas-y, va te balader un petit peu, reviens frais. Et en fait, c'était très bien. Je pense que ça lui a donné... Parce qu'en plus, il y avait ce projet d'America's Cup. Beaucoup de gens nous ont dit, est-ce que vous êtes certain que c'est bien de cumuler les deux? Parce que c'est un pari. Hein. On est plusieurs équipes à le faire. Donc, les Anglais, les Kiwis et nous, de faire ce double programme. Alors, certains autres skippers comme Jimmy Spittle ou Tom Slingsby sont dans CLGP, mais pas avec toute leur équipe. Donc, pour moi, c'est un petit peu de l'inconnu. J'ai pris une décision parce que je pense que ce qui manquait à l'équipe CLGP avant, c'est qu'elle naviguait pas assez entre les événements, parce que faut savoir qu'on arrive la plupart du temps le jeudi, on regarde le vendredi, samedi, dimanche, on prend l'avion le dimanche soir, voire le lundi matin. Donc c'est très très peu de temps, et quand c'est de l'autre côté du bout du monde, c'est quand même pas facile. Donc il faut qu'on navigue entre les événements, et je pense qu'on a pris une bonne décision, parce que là on navigue depuis le mois d'août en AC40. Maintenant on a ces 40 modifiés avec le contrôle de vol, donc je vois que il y a des process qui sont mis en route, il y a des manières de fonctionner entre les marins. On entend, si on écoute les commentaires entre le début de l'équipe de France dans CLGP en 2018 ou 2019 et maintenant, ça parlait beaucoup, là ça parle plus, enfin ils se parlent un petit peu, Quentin et Kevin, mais presque peu, et Manon donne un petit peu d'informations, mais c'est voilà, la mayonnaise a bien pris, je pense.
Donc, j'imagine l'objectif super final à San Francisco. Donc, que quand tu regardes un peu la hiérarchie qui s'est mise en place sur ce circuit CLGP avec les Néo-Zélandais qui ont maintenant un petit peu pris avance, est-ce que finalement on se rend compte que cette ligue, elle est assez ouverte, qu'il y a quand même les Australiens, là, ils se sont ratés sur cette manche à Christchurch, mais on voit les Canadiens qui se débrouillent plutôt bien, les Espagnols qui se débrouillent plutôt bien alors qu'ils sont arrivés un peu plus tard que certaines équipes. C'est on a l'impression que les cartes sont régulièrement redistribuées sur cette ligue.
Alors, il y a un truc dans la ligue qu'on ne voit pas de l'extérieur, c'est les journées d'entraînement et de préparation. Ouais. Alors qu'en Formule 1, c'est complètement bloqué. Là, il y a de l'ouverture. C'est-à-dire que les gens peuvent acheter des jours d'entraînement en plus. Par exemple, des équipes nouvelles comme les Allemands ou les Américains qui ont changé d'équipe, ils ont droit d'avoir presque jusque 21 jours d'entraînement en plus pendant l'année.
Ils achètent.
Ouais. Donc ils viennent le jeudi, parfois ils naviguent le mercredi. Mais c'est sûr que ça fait un avantage énorme. On voit les Allemands qui terminent 5e de ce Grand Prix. Il n'y a pas longtemps, ils étaient derrière. Et parlant des Espagnols, c'est un peu. Ils ont commencé en même temps que nous. Faut savoir les Espagnols exactement en même temps que Quentin pour l'événement de Cadiz en 2022. Et nous, depuis, on a eu en extra, on est l'équipe qui a le moins d'entraînement, de jours d'entraînement avec les Néo-Zélandais. On a 19 jours. Ouais. Les Espagnols en ont 27.
D'accord.
Donc, ça fait presque un jour d'entraînement en plus sur une saison. Et ça fait énormément de différence. Et bon, voilà, ils ont l'autorisation d'y aller. C'est Russell Coutts qui donne les autorisations. Et puis voilà, c'est comme ça. Nous, on a de quoi s'entraîner, donc on ne va pas trop se plaindre là-dessus. Mais bon, c'est comme ça que les équipes arrivent à progresser. Alors, il y a quelques équipes qui restent quand même à l'arrière, mais bon, ce n'est pas très grave. On voit que les courses se terminent quand même dans les secondes en général. Quoi.
Ça coûte combien un jour d'entraînement?
25 000 $.
D'accord. Donc c'est finalement le budget qui fait la différence là-dessus. Vous vous en prenez moins, c'est une question de budgétaire
ou on est encore propriété à majorité de CLGP, donc ouais. C'est CLGP qui décide. Le jour où on amènera un sponsor et on sera plus autonome, on mettra dans notre budget les jours d'entraînement si Russell Cruz nous autorise de le faire. Mais voilà, c'est le jeu, c'est ce que ça coûte pour déplacer tout du monde, pour pouvoir mettre à l'eau un bateau et se préparer.
Justement, parlons un peu d'avenir. Est-ce que l'équipe française de CLGP est assurée de disputer la saison 5 et vous en êtes où justement au niveau de vos recherches de partenaires?
Cette année, on avait 30% du budget, ouais. Donc, ce qui est, enfin non, beaucoup plus, pardon, disons, on avait un budget d'environ 3 millions ouais. Sur les 7 millions qu'on a besoin par année. Donc,
on parle en euros ou dollars là?
En dollars.
D'accord.
Donc c'est raisonnable. On est une des équipes propriétés de CLGP qui est dans les meilleurs résultats.
Ouais.
Après, l'année prochaine, saison 5, c'est différent. Ça va recommencer au mois de novembre de cette année, après l'America's Cup. On verra. Il y a des nouvelles équipes qui frappent à la porte. CLGP peut construire un bateau. Et s'il y a deux équipes qui frappent à la porte, qu'il y a une équipe qui a qu'un seul bateau, il y a une équipe qui va devoir partir.
Ouais.
Et ça sera l'équipe qui aura le moins bon résultat financier, pas les meilleurs résultats sur l'eau. Donc on essaie d'avoir les deux. On a des contacts sérieux pour pouvoir attaquer la saison avec un sponsoring plein. Et puis voilà, il y a des franchises qui se vendent. On est en discussion avec des investisseurs qui veulent acheter les franchises. Donc il y a la moitié des équipes qui sont franchisées déjà. Et la moitié des équipes qui ne le sont pas, complétées ouais. Toujours de CLGP. Ce qui est le plus important, c'est qu'on soit autonome financièrement avec un sponsor. C'est ça le plus important.
Alors, on annonce une équipe italienne, c'est ça la saison prochaine?
Bon, il y a d'autres italiennes, il y a un brésilien, il y en a d'autres, mais ils n'ont pas nécessairement encore les fonds hein, non plus. Donc,
Est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure votre présence sur ce circuit CLGP est importante alors on va basculer maintenant sur la Coupe, mais justement dans la perspective de la 37e Coupe de l'Amérique.
C'est pour moi indispensable. C'est ce que depuis le début, je dis que les planètes s'alignent quand même pas mal pour l'équipe et pour la France dans ce genre de régate. C'est que jamais la France prépare un bateau et puis on se retrouve et on navigue contre... connaître hein, les meilleurs au monde, enfin des Ben Hensley, Tom Slingsby, Jimmy Spithill, tous ces gens-là, c'est les meilleurs. Et on arrive avec un bateau, déjà on développe un bateau, on n'est pas certain si le bateau va bien, et puis après on se retrouve face à ces gens-là. Et moi, mon objectif, c'était vraiment une des raisons pour lesquelles, avec Stéphane, j'avais bien mis les choses claires, avec le groupe Accor, avec Sébastien Mazin, j'avais vraiment bien expliqué. Oui, on peut y aller, mais il faut qu'on soit dans CLGP. Pourquoi ? Parce que je veux que Quentin puisse regarder des Tom Slingsby, des Jimmy Spithill, des Ben Hensley, comme on s'est fait rouler dans la farine par Ben à San Francisco l'année passée. Eh ben, c'est une leçon. C'est une leçon qu'on a pris. Et je sais très bien que Quentin est meilleur sur l'eau et qu'il peut battre les Anglais. Mais il y a plus que juste de la vitesse sur l'eau. Il y a tout l'environnement. Et quand Quentin, j'ai vu la première fois qu'il arrivait dans la petite salle, pour sa première conférence de presse, où il avait Nathan Aldrich, Jimmy Spithill, il avait tous ces gens-là, puis il y a Ben qui arrive, qui le regarde, puis il dit « Tiens, welcome ». C'est sûr qu'il fondait presque, parce qu'il était impressionné.
C'est une de ses idoles de jeunesse, ça,
il le dit régulièrement. Et je veux pas, une fois qu'on va se retrouver pendant la Coupe, en face de ces gens-là, je veux que Quentin, ils se disent « Je les connais par cœur, je regarde contre eux toutes les semaines, je connais leurs petites habitudes, je sais comment ils prennent leur départ, en flotte du moins ». Voilà, moi j'ai pas peur d'eux et je suis prêt à les crucifier. Donc c'est ça, c'était l'objectif de faire du CLGP aussi.
Parlons maintenant de ce défi français Orient Express Racing Team qui a été annoncé, dévoilé officiellement il y a 13 mois hein, maintenant, c'est encore très très récent. Est-ce que tu peux nous dire comment vous êtes aujourd'hui organisé du côté de Barcelone où vous êtes la plupart de l'équipe est maintenant installée?
Alors, ça va très très bien. On a fait des surprises évidemment au début en AC40 à Villanova quand on est arrivé après simplement 10 jours d'entraînement. C'est un peu le résultat de ce qu'on fait grâce à CLGP.
Troisième place, hein,
troisième place à ce moment-là. Bon, un peu moins bien à Villanova, mais on a pris. Ça nous a permis. À Jeddah, pardon. C'était très très bien parce que ça nous a permis de prendre conscience de jusqu'où on pouvait pousser le bateau. Au niveau technique et au niveau des marins et de la manière de naviguer aussi. Donc, c'est une bonne leçon. On est dans notre hors de marche, en fait. On avait décidé de naviguer en monotypie One Design, donc de la C40 jusqu'à la fin de l'année, chose qu'on a réussi à faire. Le bateau est revenu de Jeddah, on a modifié le bateau pour être en ce qu'on appelle Leg 12, c'est-à-dire avec des voiles plus typées comme on va avoir sur le 75, et un système de contrôle de vol manuel.
Ouais.
Et on navigue très bien, le bateau n'a pas de problème vraiment, donc ça fait qu'on a les marins qui se font parfois 4, 5 jours par semaine à 5 à 6 heures de navigation par jour, quoi. Donc, c'est assez impressionnant. On a eu des bonnes conditions en général pour naviguer et on fait ça jusqu'au moment où le bateau sera livré et le bateau est complètement dans les temps au niveau production. Voilà, on étonne les Kiwis, on étonne plein de gens en disant, tiens, en France, vous arrivez à construire aussi vite que nous en Nouvelle-Zélande. Ouais.
Je crois, on a croisé Stéphane Candler jeudi dernier au Grand Rex à Paris pour la dernière du Sailors Film Festival qui disait que même vous aviez peut-être 4-5 jours d'avance sur le délai de livraison du bateau. C'est quand même assez exceptionnel. Raconte-nous un peu comment se construit ce bateau du côté de chez Multiplace Tavannes.
Alors ça va être un bateau qui est très très complexe à construire. Vous allez le voir quand on dévoilera la machine, mais c'est un bateau qui ne se construit pas comme les autres bateaux d'Imoca, puisque son âme est en aluminium, alors que c'est de la mousse pour les bateaux plus offshore. Donc, c'est très compliqué à utiliser. Multiplace a mis une très très bonne équipe derrière tout ça. On peut les féliciter. Les chefs d'atelier qui ont vraiment fait un boulot extraordinaire, tous les gens sur le plancher. Après, on a amené des gens aussi de notre côté. Et puis, on a Antoine Carraz, qui est notre directeur technique, qui a suivi tout ça, avec son équipe rapprochée quand même autour de lui. Et voilà, c'est un casse-tête quand même, parce qu'on reçoit des plans de Team New Zealand.
Ouais.
On doit les appliquer là-bas et on doit passer un peu à travers quand même pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il y a à faire. Et voilà, on est bien, on est très bien.
On rappelle que vous avez acheté le design package de la C75 néo-zélandais, donc vous aurez sans doute un bateau très proche. Revenons un petit peu sur le Leg 12 dont tu parlais tout à l'heure, avec un contrôle de vol qui est maintenant manuel alors qu'il était automatique sur la C40 que vous aviez utilisé jusqu'ici. Ça j'imagine, ça change beaucoup de choses. Comment l'équipe s'est adaptée à ce contrôle de vol manuel? Je me souviens avoir vu Franck Camas qui disait que c'était un petit peu l'interrogation qu'il pourrait y avoir sur la façon dont vous arriveriez à appréhender ce nouveau fonctionnement.
Bah, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne l'a pas appréhendé en début janvier, puisqu'on a aussi un simulateur avec lequel l'équipe navigue depuis, ça fait un an maintenant, d'abord en One Design, en pilote automatique, et puis après en manuel. Et donc, ils ont eu le temps de s'habituer à ça. Au moment où ils ont pris en manuel, on a tous été étonnés, tiens, finalement, ça fonctionne bien. Alors, on a fait des plantées, bien entendu, mais il y a des moments où ça va pas. Mais grâce au simulateur qu'on a, ça nous a permis de nouveau prendre des raccourcis, d'aller plus vite dans l'entraînement.
Vous avez aussi pêché un gros poisson récemment, sous la forme de Glenn Ashby, qui est détenteur de cette Coupe de l'Amérique, parce qu'il avait gagné avec Emirates Team New Zealand sur la 36e édition. Raconte-nous comment vous avez réussi à faire venir Glenn.
Alors, il y a trois facteurs. D'abord, toutes les équipes ont demandé, je pense, offert un boulot à Glenn. Donc, on est honoré qu'il ait accepté la nôtre. La première, c'est que, voilà, il fait partie de Team New Zealand. Donc, pour Team New Zealand, c'est aussi leur permettre de nous aider. Ça nous permet aussi de mieux comprendre ce dessin, même s'il n'a pas été impliqué du tout dans le dessin de ce bateau-là.
Ouais.
Mais bon, il connaît le fonctionnement de Team New Zealand, il connaît la coupe. Après, il y a trois autres facteurs. Le premier, c'est qu'il a gagné la coupe en travaillant avec Franck Camas. Donc, ils ont tous les deux, ils sont très proches de par leur victoire avec Oracle. Idem avec Benjamin Mune. Ils ont travaillé ensemble. Et moi, je le connais depuis la coupe aux Bermudes. Donc, ces trois choses-là, il se fait qu'on a tous les trois parlé à Glenn séparément. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il a accepté. Il dit, tiens, ça me ferait plaisir d'aider les Français. Voilà, j'en suis ravi parce qu'en fait, il vient un petit peu comme une vue de drone, de l'extérieur, notre organisation générale, la manière dont les marins travaillent. Et puis on communique aussi sur CLGP puisqu'il a été régleur d'aile avec l'équipe suisse de CLGP. Donc, il connaît bien le circuit. Donc, ça lui permet on lui parle régulièrement et puis il vient une semaine par mois avec nous à Barcelone.
Ça veut dire qu'il vous est prêté par Emirates Team New Zealand ?
Oui, il est prêté, il ne travaille plus pour Team New Zealand directement puisqu'il était commentateur pour ACE, qui est America's Cup Event. Il faisait les commentaires et il va faire les commentaires pour un coup d'América, donc il n'était pas directement avec Team New Zealand, donc il était disponible. C'est pour ça que la plupart des équipes ont essayé de l'avoir. Et depuis, enfin, je pense qu'il a un projet de record. Il voudrait refaire son record, je pense, en char à voile, donc en Landiot. Et il voudrait faire un record sur l'eau aussi. Et il se concentre là-dessus maintenant et pas trop sur la Coupe d'América. Donc pour nous, c'était comme il est là, il va être là pendant la Coupe. Donc on l'a, il va travailler avec nous jusqu'au moment des régates. Après, il va être comme commentateur, donc on l'aura plus.
La mise à l'eau de la C75 français est prévue pour le mois de mai. Vous avez déjà une date un peu précise ou
Non, mois de mai, ça y a aucun problème. Donc début avril, on va le transporter de chez Multiplast à Barcelone où on va finir tous les petits détails parce qu'on est quand même une fois que tout le monde sera mis sur place, on est plus de 100 quand même dans l'équipe. Donc ça fait du monde et on a une base extraordinaire. On a une base qui est impressionnante avec plus d'espace que presque toutes les autres équipes, donc c'est très bien.
Réglementairement, vous avez le droit de naviguer sur la C75 à partir de quand ?
Ouais, dès qu'on peut, on va être un petit peu en décalé par rapport à certaines équipes qui ont commencé tôt, mais certaines équipes ont besoin de continuer à développer des choses. Nous, on reçoit un dessin, il faut qu'on passe notre temps à bien comprendre le dessin qu'on a reçu, quoi, parce qu'il n'a pas été créé par notre équipe.
Là, en avril, on attend trois mises à l'eau, c'est ça, si je ne me trompe pas ?
Les déclarations, c'est pour le launch. Donc, c'est launch date, ça veut dire qu'un bateau peut être sorti de son hangar et mis au public et pas nécessairement navigué. Donc, il peut être mis à l'eau pour jauger et puis peut-être tirer pour tester des systèmes de foil et puis de remis à l'eau. Donc, je pense qu'au mois d'avril, il va y avoir quelques équipes qui vont... C'est certain que Alinghi va mettre à l'eau bientôt. Ça, j'en suis certain. Les Néo-Zélandais vont mettre à l'eau, mais en Nouvelle-Zélande. Ils vont tester avant de renvoyer le bateau ici. Et après, les autres, dans ce qu'on a vu, c'est que Luna Rossa, ils ont envoyé leur bateau à Cagliari. Après, il faut qu'ils l'envoient. Voilà, les Anglais, je ne sais pas trop où ils en sont. Et les Américains non plus, je n'ai pas vu le bateau.
Quand on peut s'attendre à avoir navigué, c'est le premier. Alors, il y a une America's Cup préliminaire regatta fin août à Barcelone avant le coup d'envoi de la Coupe Louis Vuitton qui sera les éliminatoires entre Challenger. Est-ce que d'ici là, il va y avoir des entraînements en commun ? Est-ce que vous aurez un peu une idée des forces en présence, un petit peu des potentiels de ces différents bateaux avant ou ça va être un peu la découverte totale au moment de cette première America's Cup regatta d'août ?
Non, on va tous naviguer, on va pas naviguer l'un contre l'autre, puisqu'on n'a pas le droit. Il y a un système de recon programme, donc ça veut dire, c'est de l'espionnage organisé entre nous, c'est une mise en commun pour qu'on ait des gens qui suivent les entraînements, ça donne des vidéos et tout, on peut regarder tout ce qui se passe exactement, donc on verra très bien, on n'a pas accès aux chiffres de toute façon, mais on verra un petit peu comment sont les autres bateaux, après, on verra, mais je pense qu'on va avoir une petite idée, nous, si notre bateau il avance ou pas. C'est seulement dans la première régate qu'on verra si on va vite par rapport aux autres, c'est certain.
Ouais. Parlons un petit peu de la coupe jeunes et femmes. On rappelle que pour la première fois de l'histoire de la Coupe de l'Amérique, il va y avoir une compétition femme et la coupe jeune, elle a déjà eu lieu à deux ou trois reprises. Où en sont les équipes françaises ? Est-ce qu'elles peuvent naviguer un peu sur le Leg 12 ou elles sont, pour l'instant, elles naviguent sur d'autres supports ? Comment elles se préparent à cette coupe qui aura lieu pour elles en septembre, octobre ?
Alors, je parle pas pour toutes les équipes parce qu'il y a des équipes qui sont très différentes de la nôtre. On n'a qu'un seul AC40, okay, donc c'est un peu compliqué. Les Anglais n'ont plus qu'un AC40 aussi, donc c'est un peu compliqué pour eux aussi. Les Italiens ont un Leg 12, mais je pense qu'ils l'ont mis de côté, ils ont un AC40, donc j'imagine que les jeunes ont navigué un petit peu contre l'équipe Challenger. Les Américains ont deux bateaux, donc ils vont pouvoir faire naviguer les deux, au moins contre les Challenger, donc ça c'est une facilité, et les Néo-Zélandais aussi. Donc, nous, ce qu'on a fait depuis le début, c'est qu'on fait des sessions tous les mois avec les équipes jeunes et les équipes femmes. Ils font des sessions de simulateurs. Ouais. Et en plus, on fait des sessions sur d'autres bateaux. Là, ils vont faire des championnats en la saison en 69F. les jeunes, et les filles vont faire du easy to fly.
D'accord.
Ça, c'est ce qu'ils font comme régate, de la régate pure, en plus de faire du simulateur. Et au mois de mai, à partir du moment où le Challenger va prendre le 75, ils auront accès à leur... La C40 va être remis en mode One Design, et ils auront leur bateau à temps plein disponible. Manon Audinet, qui est skipper pour les filles, et Enzo Ballanger, qui est skipper pour les jeunes, sont à temps plein dans l'équipe Challenger.
D'accord,
ils participent à tous les débriefs, ils naviguent et tout. Et quand c'est possible, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, Quentin, en fin de journée, dit voilà, Enzo, tu embarques, tu viens barrer, tu remplaces Kevin, par exemple, et Manon, tu prends le fly control, et puis ils restent ensemble, ils naviguent, ils prennent le bateau en main. Donc, on essaye de commencer le plus tôt possible. On est une des rares équipes, je pense, qui a fait ça, du moins pour les filles. Les jeunes, il y en a d'autres équipes qui ont fait naviguer. Et donc, on essaye de les faire naviguer le plus vite possible, avec nos moyens.
Les objectifs pour vous sur cette Coupe jeune et filles, c'est de gagner ou est-ce que vous pensez
non,
que...
Non,
vous...
c'est le même objectif que pour l'équipe Challenger, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible et de gagner. On essaye de donner les moyens. Idéalement, si j'avais carte blanche financière, on aurait deux AC40 et on ferait une rotation des jeunes qui pourraient naviguer et des femmes qui pourraient une rotation qui pourrait naviguer contre l'équipe Challenger en AC40. C'est ce qu'on ferait là maintenant tout de suite. Mais on n'a pas le deuxième AC40, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on a une superbe équipe, Enzo. Voilà, toute l'équipe des jeunes, ils sont extraordinaires, et l'équipe des femmes aussi. On a des sacrés numéros et beaucoup de talent. Et puis Manon, le fait qu'elle est dans CLGP, ça lui permet de prendre conscience de comment Quentin gère ce projet et transposer ça sur l'équipe d'AC40.
Tu parlais de moyens. Aujourd'hui, est-ce que le budget de cette équipe française, il est consolidé? C'est jamais consolidé, un budget. On en veut toujours plus, mais est-ce que vous êtes à un niveau que vous visiez quand vous avez lancé le projet maintenant en février 2023?
On y est presque. On dépense toujours plus que ce qu'on a prévu, hein, parce qu'il y a des imprévus. C'est très compliqué d'obtenir du matériel à travers le monde entier. Enfin, les coûts de transport, les coûts ont explosé, mais on a réussi à obtenir beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais eu dans la Coupe d'Amérique en France. Donc, c'est assez exceptionnel. Le fait d'avoir ces partenaires qu'on a là maintenant, c'est vraiment très bien. C'est Stéphane qui est à fond sur cette partie-là. Je dirais qu'il serait très heureux d'avoir encore un autre partenaire. Il y a de la place encore sur le bateau et qui pour pouvoir rejoindre l'équipe, quoi. Mais on sait qu'on est très proche de l'événement, donc ça devient de plus en plus compliqué. Mais en fait, oui, il nous manque encore une petite partie de budget pour être bien clôturer les choses correctement.
Et vous êtes à peu près à quel niveau par rapport aux autres équipes?
C'est très compliqué de savoir comment les autres équipes. Parce que quand on a une équipe anglaise qui est sponsorisé aussi par Mercedes, Ineos, et qui a besoin de probablement en Formule 1 de transférer des pour des raisons de budget et de règles, de transférer des ingénieurs. On sait pas combien ça coûte, ça. Enfin, ça se quantifie très très. Mais on est un petit peu moins que les Néo-Zélandais, mais on a de quoi jouer. Le plus compliqué dans une America's Cup, c'est pas tellement le budget comme tel, c'est tout ce qu'on a pu accumuler avant. Quant à des équipes comme justement Ineos, enfin toutes les autres équipes à part Elingi, mais toutes les autres équipes qui ont déjà des assets, qui avaient déjà un AC40, qui avaient déjà une base, qui avaient déjà des équipiers, c'est beaucoup plus facile. Là maintenant, on a pris un raccourci en prenant un design de Team New Zealand. Ça va nous donner une base technique exceptionnelle. Et on a racheté quasiment tous les boatyards de la Volvo Ocean Race 2017-2018 qui fait notre base. Et maintenant, on a une base pour mettre la C40, pour mettre les mâts, pour mettre la voilerie, pour faire la C75 aussi, plus des zones d'hospitalité, des bureaux, des salles de sport. Enfin, on a la salle repas. Enfin, tout ça, ça prend du temps à créer. Et en fait, on l'a créé très rapidement et ça coûte énormément d'argent. Et ça aurait pu coûter très cher, et nous, ça nous a coûté un peu moins cher. Donc, une fois qu'on a tout ça, par exemple, pour la prochaine, la 38e, on part avec une base, mais on part avec une base qui vaut au total, quand je parle d'une base en entre le bateau, les gens et tout, ça vaut 40, 50 millions. Ouais. Donc, quand on rajoute ça à la construction d'un bateau et tout, c'est sûr qu'on peut dire qu'il y a des équipes à 100, 120 millions d'euros. Mais voilà, on reste toujours dans les mêmes chiffres au total.
Ouais, la transition est toute faite et on va terminer là-dessus parce que c'est que ton temps est précieux. Tu parlais déjà de 38e, ça veut dire que vous projetez tous, et est-ce que, y compris avec vos partenaires, déjà au-delà de cette 37e, que vous posez les fondations avec cette 37e pour aller vous aligner sur la 38e avec davantage de certitude, de moyens et forcément d'ambition?
Ben, en fait, le problème qu'on a eu en France jusque-là, c'est qu'aucune Coupe d'Amérique n'a pu être continuée. Donc, c'est sûr qu'on en parle avec nos partenaires, mais on sait très bien, on ne va pas se raconter l'histoire, les partenaires, ils embarquent si l'aventure est belle et si le résultat est bien. Si on est dans le trou, si l'ambiance n'est pas bonne, si on n'offre pas une visibilité au niveau hospitalité, au niveau sponsoring à nos partenaires, ils ne continueront pas. C'est sûr et certain, mais on travaille très fort là-dessus et avec Stéphane, on en est conscient et tous les responsables de l'équipe en sont conscients aussi, les marins également. Donc, on travaille fort là-dessus. C'est vrai que l'objectif, comme la 38e, sera sur le même support, puisque ça a été, quand on s'inscrit, il faut accepter que c'est sur le même support. Donc, on se dit que ce serait ridicule et dommage pour la France de ne pas être présent. Mais on travaille énormément aussi pour justement arriver à faire une transition entre la 37e et la 38e. Parce que s'il y a 3 ans ou 4 ans à attendre, il faut qu'on puisse éviter que nos talents partent à l'étranger ou dans d'autres équipes. Donc, il faut qu'on... Et donc, on travaille énormément là-dessus.
Eh bien, très bien. Merci, Bruno, beaucoup d'être passé au milieu de ton emploi du temps très chargé par mon domicile à Levallois. On te souhaite un bon séjour parisien, un bon retour sur Barcelone. On suivra donc l'équipe de France de CLJP dans début mai aux Bermudes. L'équipe de France Orient Express Racing Team prochaine compétition en août à Barcelone. On te souhaite une bonne journée. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 159e épisode de Pause Report. Bonne journée, Bruno.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. À bientôt !